Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est impressionnant de se trouver là. On ne vous voit presque pas. En fait, je viens juste vous saluer parce que le porte-parole de notre équipe, c'est Thierry. Mais c'est vraiment ma joie de vous dire à quel point on est content d'être au milieu de vous ce matin. Vous êtes notre famille. Et ça peut paraître banal de dire ça. Mais je le dis vraiment du plus profond de mon cœur, vous êtes nos frères et sœurs et le Seigneur a vraiment à cœur que nous vivions en frères et sœurs. Et je vous bénis, chacun, chacune. Et je te laisse la parole.
Merci. C'est vrai qu'on est vraiment content d'être là ce matin. Ça nous fait super plaisir de vous voir. On est chanceux parce qu'on visite pas mal d'églises et on aime sentir les atmosphères. Et là, ce matin, en arrivant, je me disais, oula, c'est glorieux. Il y a quelque chose de vraiment glorieux au milieu de vous. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un a son anniversaire aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui, il y a qui? Ah, voilà! Alors, je vais te faire un petit cadeau. Tu veux, Gabriel? Oh, peut-être que tu as déjà, mais tu ne feras pas assez plus loin. On va t'offrir un de nos livres. Alors, j'ai choisi celui sur les conflits. J'espère que ça ne t'embête pas. Mais c'est une école de l'amour, quand même. Hein? Donc, voilà, comme ça, tu... Tu auras quelque chose et puis nous, on te souhaite un bon anniversaire aujourd'hui. Hein, ça, c'est chouette.
Je vais t'accalmer.
Et puis, il y a quelqu'un qui a son anniversaire demain?
Voilà.
Ah, mais juste pas loin. Ah ben, on va aussi faire un cadeau. Ça va? On peut? Voilà. Alors, Monique va vous les amener et puis on vous souhaite des bons anniversaires. Voilà. Voilà. On aimerait partager avec vous ce matin quelques pensées à propos de l'amour. Puisque vous êtes dans le thème des relations, on aimerait partager avec vous quelques réflexions, quelques intuitions qui nous habitent. Je dirais que j'en ferai pas un point de doctrine, vous savez, la doctrine inébranlable comme celle de la naissance de Jésus, la mort sur la croix, le pardon des péchés, la résurrection, ça c'est les points fondamentaux. Et après tout autour, ben, on a ce texte biblique qui nous parle et puis qui nous emmène petit à petit dans des réflexions, dans une meilleure compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il a fait, de ce que nous sommes pour lui, etc. Et c'est dans ce niveau-là que j'aimerais partager avec vous quelques réflexions. Et je lis tout d'abord un texte qu'on connaît tous par cœur, j'imagine, en tout cas qu'on a déjà lu une fois dans notre vie, dans la première épître aux Corinthiens, le fameux début du chapitre 13. Alors je vous le lis parce que la Bible, on sait, mais c'est mieux de la relire de temps en temps. Hein, voilà. C'est l'apôtre Paul, le grand apôtre, qui dit ceci. Il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » C'est déjà assez fort comme début, je trouve. Hein? Moi, une de mes faiblesses, c'est les langues. Je suis assez mauvais en allemand, pas beaucoup meilleur en anglais. Je maîtrise à peu près le français, mais ça s'arrête là. Ah non, il y a aussi gelati, ça je sais. Ça quand même. Ouais. Mais quand je parlerai les langues des hommes, c'est quand même fantastique quand on peut parler les langues des hommes. L'autre jour, on était en réunion Zoom avec des équipes en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, au Pakistan, à tous ces stands là-bas. Et on se rendait compte que notre traducteur disait des choses, mais on n'avait aucune idée de ce qu'il disait. On est coupé de nos frères et sœurs, on doit passer par des traducteurs. Je trouve que la tour de Babel, ça a laissé quand même des traces difficiles dans l'humanité. Quand je parlerai les langues des hommes et celles des anges, alors ça, c'est super. Alors oui, on aime parler en langue, mais il me semble qu'il doit y avoir une richesse de langues là dans le royaume de Dieu, ça doit être assez extraordinaire. Donc même si je parlais ces langues-là, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Littéralement, en grec, je suis un écho inutile. Et puis, la cymbale qui retentit, c'est un bruit assourdissant. Le verbe grec, il dit bien ce que c'est allalazone. Vous voyez, les gens qui font des allalalalalalala. Allalalalalalala. On est ça, si on n'a pas l'amour. Hein? C'est intéressant, on est ça. Et puis, continue. Quand j'aurai le don de prophétie, ça c'est génial, les gens qui ont le don de prophétie, je vous encourage, cultivez ça, c'est tellement important pour l'Église. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Ben ça, j'aimerais bien en connaître un qui sait tout ça, hein. Ça m'intéresserait de parler avec. Et toute la connaissance. Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Littéralement, je suis rien. C'est pourtant le membre d'église idéal, celui-là. Hein? Il connaît tous les mystères, il peut répondre à toutes les questions, il a la science de tout, il a la foi ce qu'a déplacé les montagnes, il a une entreprise de déménagement, d'ailleurs. C'est pratique. Hein? S'il n'y a pas d'amour, il est zéro. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Littéralement, je suis inutile. L'apôtre Paul, quand même, met la barre assez haut au niveau de l'exigence de l'amour les uns pour les autres. Jésus l'a déjà fait, hein, quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres, les gens sauront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres, etc. » Mais là, l'apôtre Paul, je trouve qu'il met encore l'aiguille dans le ballon, si on peut dire. Hein. On est là dans une recherche spirituelle, on veut connaître Dieu, on a des œuvres sociales, on a tout. S'il n'y a pas d'amour, c'est inutile. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment aimer de la façon de la... Parce que distribuer ses biens, c'est déjà aimer, me semble-t-il. Pas vous ? Livrer son corps pour être brûlé, ben ça, je n'ai pas très bien compris quel genre d'amour c'est, mais c'est certainement un geste d'amour. Aider les gens à comprendre les mystères, c'est de l'amour. Mais manifestement, Paul veut parler encore d'autre chose. Et la question qu'on s'est posée avec mon épouse pendant des années et qu'on continue de travailler, d'enseigner, c'est comment on fait pour aimer ? Parce qu'il y a des gens aimables, et puis il y en a un peu moins. Enfin, je ne sais pas, vous, peut-être que vous aimez tout le monde facilement. Moi, il y a des gens... C'est plus compliqué de les aimer. Et je dois vraiment me tourner vers Dieu en disant, mais aide-moi. Je ne sais pas pour quelle raison. Certainement des raisons psychologiques qui font qu'ils me rappellent telle ou telle chose, ou bien que je n'apprécie pas leur attitude, ou bien que leurs valeurs ne sont pas les mêmes que les miennes, ou bien qu'ils m'ont fait du mal, ou bien. Comment on fait pour aimer ? Et c'est une question très, très importante. Ça vaut la peine d'y travailler, ça vaut la peine d'y réfléchir, ça vaut la peine de progresser dans l'amour. La réalité, c'est qu'il ne nous est pas naturel d'aimer. Il faut qu'on soit honnête, nous les humains, ça ne nous est pas naturel. Oui, il y a des gens qu'on aime naturellement, on va en parler. Mais globalement, l'amour, l'exigence d'amour que pose Paul, que pose Jésus, ça ne nous est pas naturel. Alors, j'aimerais citer quelques exemples où il faut progresser dans l'amour. Mais ce n'est pas le thème du matin, je vous dis tout de suite. Hein, je vais vous parler d'autre chose, mais ça ne fait rien. Voilà. Par exemple, il y a des gens, quand ils vous aiment, ils vous envahissent. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. L'amour envahissant. Mais est-ce que c'est l'amour que Dieu veut ? Ou bien est-ce qu'on peut apprendre à aimer sans envahir l'autre ? En le respectant ? En arrêtant de le contrôler ? Dieu m'a donné une famille avec des enfants dont certains ne fonctionnent pas du tout comme moi. Mais vraiment pas, hein ? Ouais. Monique dit, c'est normal, je suis là. Merci, chérie. Mais c'est vrai que quand ils étaient enfants et adolescents, j'avais qu'une envie, c'est de les contrôler pour leur bien. Parce que s'ils agissent comme moi, c'est bien. C'est une forme de prise de pouvoir aimante. Je fais ça pour ton bien. Je te domine pour ton bien. Il y a des amours pervers. Il y a des amours destructeurs. Il y a des amours purement romantiques. Je vous pique au hasard, hein. N'y voyez pas d'intention. Je t'aime. Ça me fait du bien de t'aimer. Vous voyez, ça c'est le romantisme. Ce que j'aime, ce n'est pas la personne. C'est la sensation intérieure que ça me fait de l'aimer. Vous saisissez la nuance ? On dirait le gousi-gousi. C'est ça que j'aime. Et puis quand il n'y a plus le gousi-gousi, ben on laisse tomber la personne. Ce n'est pas de l'amour. Vous voyez, il y a tellement de formes tordues d'amour que la question du comment aimer doit être fondamentale. On doit apprendre à aimer. On se forme à l'amour. On est façonné pour aimer les gens. Je vous donne un dernier exemple. L'amour donnant-donnant. Je vais aimer aujourd'hui lui. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que si je l'aime bien, il va me donner quelque chose en retour. Vous voyez ? C'est plus de l'amour, c'est un investissement. Ah, mais ça existe, hein ? On rigole. On a eu la chance d'accompagner un certain nombre de ministères importants qui nous disaient souvent, mais les gens nous aiment parce qu'ils espèrent quelque chose de nous. Mais nous, on aimerait être aimés pour qui on est, tout simplement. Donc toutes ces formes tordues d'amour que l'ennemi a réussi à distiller un peu partout dans la société et dans l'Église, c'est important qu'on apprenne, et ça, ça pourrait être des thèmes que vous pouvez développer, hein. Comment on fait pour sortir de là ? Comment on fait pour entrer dans un amour droit, un amour clair, un amour de l'autre et pas de moi en l'autre ? Mais ça, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la deuxième question. C'est finalement, quand Jésus nous donne un commandement pareil, quand l'apôtre Paul insiste lourdement sur l'amour, la question c'est pourquoi ? Pour quelle raison est-ce que nous devons, parce que c'est un devoir, c'est un commandement, pour quelle raison est-ce que nous devons nous aimer ? Ce serait quand même plus simple si on n'était pas obligé. Vous ne trouvez pas ? Ce serait quand même plus simple si on pouvait se laisser aller au gré de nos émotions. Ce serait quand même plus simple si je n'étais pas devant ce commandement qui dit que même si je fais tout bien, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Alors pourquoi ? Pourquoi Jésus insiste pareillement ? Pourquoi l'apôtre Paul insiste pareillement ? Alors j'aimerais qu'on réfléchisse à ça ensemble et puis vous donner trois réponses. Pourquoi ? Parce que je crois que quand on comprend le sens des choses, on est davantage motivé à les mettre en application. En tout cas, moi, j'aime comprendre. Quand j'étais gosse, ma question, c'était pourquoi ? Et j'étais casse-pied. J'en suis convaincu. Range ta chambre. Pourquoi ? Parce que je te le dis. Pourquoi ? Moi, j'aime comprendre. Vous pas ? On aime savoir pourquoi. Pourquoi Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres ? Vous avez déjà réfléchi à cette question ? Franchement, Seigneur, hein, moi, j'aurais préféré faire des voyages missionnaires ou des choses. Hein, mais pourquoi s'aimer les uns les autres ? Pourquoi tu me tortures avec ça ? Parce qu'à certains moments, c'est une torture. Si quelqu'un d'entre vous n'a jamais été en difficulté pour aimer quelqu'un, levez la main. Et Jésus nous dit, ben c'est justement celui-là que je veux que tu aimes. Parce que les autres, c'est facile. Mais c'est celui-là. Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Si j'en aime 99, puis qu'il y en a un que j'aime pas, c'est pas grave. Et non. Alors, une des raisons fondamentales, c'est pour le confort des pasteurs. Hein, David ? Quand on a une église où les gens s'aiment, où il n'y a jamais de disputes, jamais de problèmes, jamais de rien, c'est génial pour les... Non, mais je vous plaisante, ce n'est pas du tout ça. C'est un bénéfice secondaire quand même, hein. Mais j'aimerais vous emmener dans quelque chose d'un tout petit peu plus spirituel, un peu plus sérieux. Alors, je vais développer avec vous trois raisons, nous semble-t-il. Il y en a certainement d'autres, hein, mais trois raisons pour lesquelles Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. La première de ces raisons, c'est parce que nous, sur la terre, nous reflétons, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes créés à son image. Alors, on peut le comprendre. Moi, je suis l'image de Dieu, et peut-être aussi. Mais aussi, on peut le comprendre, nous sommes ensemble l'image de Dieu. Alors, comment est-ce que l'amour vient se combiner avec cette question d'image de Dieu ? Ben, de la manière suivante. Vous savez que, dans la révélation biblique, notre Dieu est un Dieu trinitaire. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas facile à comprendre parce qu'il est trois, ils sont un. Déjà, au niveau grammaire, c'est compliqué. Au niveau théologique, c'est compliqué, c'est un mystère. Alors, on peut faire appel à celui qui a la science de tous les mystères pour qu'il nous explique. Mais il y a des choses qu'on ne comprendra pas, mais on comprend quand même certaines choses. On comprend que le Père... Le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes, on emploie ce mot-là, différentes les unes des autres, mais unies au point d'être un. Ça va si je dis ça comme ça ? Mais on sait bien qu'ils sont différents. Ils ont des ministères différents, ils ont des caractéristiques différentes. Par exemple, c'est le Fils qui avait le ministère de venir nous réconcilier avec le Père au travers de la croix. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le Fils qui a fait ce travail-là. Et puis, à un moment donné, il a cédé la place au Saint-Esprit qui, lui, est chargé de nous conduire dans la vérité, de nous révéler les choses et de nous consoler. Et pendant que le Saint-Esprit fait ça actuellement sur la terre, le Fils, lui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui intercède pour nous, c'est le Fils. Ils sont différents, ils ont des ministères différents. Et le Père, par exemple, c'est le seul qui connaît le jour et l'heure du retour du Seigneur. Même Jésus ne le connaît pas. C'est intéressant. Vous ne trouvez pas ? Ils sont différents. Et pourtant, ils s'aiment profondément. D'un amour qu'on a de la peine à imaginer. D'un respect mutuel extraordinaire. Si quelqu'un veut faire du mal à une des trois de la Trinité, les deux autres vont se déchaîner, ça c'est sûr. D'ailleurs, la Bible nous le dit. En fait, notre Dieu est un Dieu où il y a de l'espace en lui. Voyez, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un espace. Et dans cet espace, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'amour. Et Jésus nous a dit « demeurez en moi ». Il a aussi dit « demeurez en nous ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous pouvons aller nous installer dans cet espace d'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons nous y lever. Si notre Dieu était monobloc, on ne pourrait pas demeurer en lui. On ne pourrait que tourner autour. Et cet espace d'amour qu'on peut expérimenter, il y a eu des moments très beaux dans la louange, merci beaucoup pour ça, des moments où vous nous avez invités à être là. Eh bien, nous sommes, nous sur la terre, nous devons être le reflet de ça. Et quand nous nous aimons les uns les autres, nous créons entre nous un espace d'amour. Et moi, mon rêve, c'est que cet espace d'amour soit tellement tangible que les gens de l'extérieur aient envie de venir se lever à l'intérieur de notre espace d'amour, de la même manière que nous sommes appelés à nous lever dans l'espace d'amour qu'il y a en Dieu. Vous saisissez ? Donc c'est quelque chose de très mystérieux, mais c'est une réalité. Quand nous nous aimons les uns les autres, nous reflétons la Trinité sur la terre. Je trouve que ça vaut le coup. Je ne comprends pas tout ce que je dis, je vous dis tout de suite. Mais il me semble qu'il y a là une piste spirituelle très très importante. Nous ouvrons entre nous des espaces spirituels qui reflète ce qu'il y a en Dieu. Seigneur, je commence à comprendre que aimer l'autre, ce n'est pas juste une punition. Je commence à comprendre que aimer l'autre, ce n'est pas juste un devoir difficile. Mais quand mon cœur fait ce travail, je repousse l'ennemi plus loin. Et j'ouvre ces espaces spirituels de la présence de l'image de Dieu. Ça, c'est la première des raisons. Pour moi, elle est déjà suffisante, mais c'est intéressant quand il y en a d'autres. La deuxième raison, c'est la souffrance. Jésus nous a dit que notre vie chrétienne ne serait pas un long chemin tranquille. Ne serait pas qu'une suite de succès. Jésus nous a prévenu que la souffrance ferait partie de notre vie. Et ceux d'entre nous qui ont traversé des souffrances ou qui sont en train de traverser des souffrances, vous savez à quel point ce n'est pas facile. On relisait hier avec une équipe dans la ville de Nancy où on était pour les superviser ce passage des Lamentations de Jérémie au chapitre 3 où Jérémie dit « Je suis tué, tu m'as transpercé, je suis foutu, mais Je fais ma traduction, hein. Mais je choisis de dire que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Comment est-ce qu'on peut traverser la souffrance à la gloire de Dieu si on n'a pas autour de nous des frères et sœurs qui nous aiment? Et je peux vous dire par expérience personnelle, familiale, nous sommes encore en train de traverser une épreuve assez compliquée, douloureuse, difficile. Et les gens qui autour de nous nous aiment et nous manifestent leur amour d'une manière très concrète. Comment allez-vous? On prie pour vous, etc., etc. Nous aident profondément à rester droit dans nos bottes et à traverser la souffrance en continuant à proclamer la gloire et la bonté de Dieu. Parce que l'ennemi, lui, il veut qu'une chose, il veut que dans la souffrance, nous maudissions Dieu. Alors certains vont dire, oui, mais moi je me débrouille tout seul, si je souffre tout seul, je vais tenir le coup. Oui, peut-être un moment, c'est probable. Mais le réseau d'amour que nous avons autour de nous, qui est peut-être un réseau un peu caché, mais qui tout à coup se révèle parce que la souffrance arrive, parce que la douleur arrive, et qui tout à coup se met à vous soutenir, à vous tenir, à vous encourager, à vous consoler. Ce réseau-là fait que vous allez pouvoir traverser la souffrance en continuant à confesser la gloire, la bonté et l'amour de Dieu. Donc je pense que quand Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est comme un équipage de voiliers. Moi, j'avais beaucoup regardé à l'époque à Lingui quand ils avaient gagné l'America Cup parce que je trouvais ça absolument fantastique. Je regardais cet équipage qui fonctionne, mais au millimètre. Hein, si vous avez l'occasion de revoir certaines images, mais c'est extraordinaire. Chaque geste, chaque mouvement, ils se sont entraînés. Ils sont prêts dans la tempête et dans le vent fort. Et quand ça va mal, et quand le bateau ennemi est devant, ils sont prêts. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont entraînés d'abord à terre, ensuite sur le bateau partant calme, et petit à petit en condition de compétition et de vent plus fort. Si nous ne nous entraînons pas à nous aimer les uns les autres quand tout va bien, quand la tempête va se déchaîner, on ne sera pas capable de tenir le coup dans cette relation d'amour qui permet de traverser la souffrance à la gloire de Dieu. Donc la deuxième raison, c'est pour que l'Église continue de le glorifier même quand elle souffre. Ça va? Je passe à la troisième raison. La troisième raison, elle est un petit peu délicate. Je veux demander à mes sœurs de me faire grâce pendant quelques minutes avant de me jeter des œufs et des tomates. Ça va si je vous dis ça comme ça, je vous prépare. Hein ? Et je vous lis un verset, deux versets des Proverbes. Un qui dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Le chronomètre, j'ai quelques minutes hein, avant. Le deuxième dit « Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. » Pourquoi des versets pareils ? Parce que vous, mesdames, vous êtes particulièrement querelleuses et qu'il faut le dénoncer ? Je ne crois pas. D'ailleurs, il y a quelques versets sur les hommes querelleurs, mais c'est plutôt ceux qui font la guerre. Hein. Les hommes, quand ils sont querelleurs, ils font exploser des bombes. Les femmes, quand elles sont querelleuses, elles grignotent plutôt un peu, hein, mais ça fait tout aussi mal. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit une chose pareille? On s'est posé la question, vraiment, on est tombé sur ces versets, comme quoi on peut avoir lu sa Bible plusieurs fois et puis on n'a pas tout vu. Et puis on s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'au moment où, comme un éclair, nous est apparue la chose suivante. Nous, l'Église, vous, l'Église, moi avec vous, nous sommes l'épouse de Christ. Et qu'il n'est pas question de donner au Christ une épouse querelleuse, une épouse pleine de ressentiment. Il n'est pas question que le Fils épouse une femme, nous, c'est dur comme homme à dire, hein, nous l'épouse, mais c'est la réalité biblique, hein, nous sommes l'épouse. Il n'est pas question que le Fils prenne une épouse qu'il va regretter et il va souhaiter habiter à l'angle d'un toit. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire dans le royaume de Dieu, mais on peut l'imaginer un peu à part, comme ça. Il n'en est pas question. Et donc, quand Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, réellement, profondément, en vérité, d'une manière saine, c'est parce qu'en le faisant, nous contribuons à préparer l'épouse. On peut imaginer le père, alors ça c'est un peu d'humour, hein, il est penché à la fenêtre, comme ça il regarde, puis on n'est pas encore prêt. Hein. Donc quand nous apprenons à nous aimer les uns les autres, nous contribuons à hâter le retour du Seigneur. Ça vaut le coup, hein? Je ne veux pas contribuer à rendre l'épouse querelleuse pour Jésus. Au contraire, je veux que cette épouse dont je fais partie soit de plus en plus belle, ouverte à l'amour, nourrie d'amour. Son amour pour son époux, l'amour de son époux, mais aussi l'amour pour elle-même, à l'intérieur d'elle-même, ce qui la rend solide, sans tache ni ride, pour reprendre l'expression des Éphésiens. Alors, pour résumer ce que je vous partage ce matin, plutôt que d'être un bronze ou un airain qui résonne, qui fait écho. Je veux être l'image de Dieu sur terre, l'image de la Trinité, l'image de ce mystère. Et j'aimerais que les gens autour de l'Église se posent la question, mais c'est quoi ces gens? Ça me fait tellement envie d'aller à l'intérieur. Plutôt que de faire des bruits discordants du genre « Ah là 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 !» Je veux être un cœur de compassion, une bouche qui console, qui encourage ceux qui souffrent, pour que nous soyons capables de traverser la souffrance à la gloire de Dieu, et que ce ne soit pas une vaine parole, ou bien que ce ne soit pas une espèce de recouvrement, une espèce de déni de la souffrance. Non, la souffrance, c'est une vraie souffrance, et ça fait crier, et ça fait pleurer la nuit, le jour, pour de vrai. Et dans cette souffrance, je vais être capable de continuer à glorifier Dieu. Parce qu'autour de moi, il y a des bouches qui, au lieu de faire « Ah là 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 !» ont des paroles d'encouragement, ont des gestes d'encouragement, sont des vrais soutiens. Plutôt que de ne servir à rien et de n'être rien, je veux servir à embellir l'épouse. Je veux servir à la joie de Jésus quand il nous épousera. Je veux servir cette Église pour qu'elle ne soit pas une épouse querelleuse, mais une épouse de grâce, une épouse d'amour, une épouse belle, encore une fois, sans tache ni rides. Il me semble qu'il y a déjà là trois bonnes raisons pour que nous puissions continuer à nous battre pour aimer, à apprendre à aimer, à nous laisser former pour aimer, à nous laisser modeler pour aimer, même ceux qui ne sont pas aimables au milieu de nous ou qui nous paraissent pas aimables. Refléter la Trinité. Permettre à l'Église de glorifier Dieu même au travers de la souffrance et hâter le retour du Seigneur.